Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Vous connaissez Rose, la chanteuse ?
Aller à un concert, repeindre ma chambre en vert, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer.
La liste, c'est le tube de son premier album. Eh bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé après le succès de son premier album. Une descente aux enfers sur fond de dépression, d'alcool et de cocaïne. Une histoire que je tire de son livre Kérosène aux éditions Ipanema. Je l'ai écrite avec Simon Veil. Réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'aurais préféré avoir des excuses, hein. Des parents boiteux, une histoire de famille tordue. Mais en vérité, mon enfance est une publicité pour le bonheur. Nous habitons une petite résidence dans les collines de Nice, avec un terrain de tennis, une piscine. J'ai un grand frère, Johan, et assez vite une petite sœur, Anna. Je partage ma chambre avec elle jusqu'à ma majorité. Je m'occupe d'elle souvent. Et elle dira plus tard, « Ah ben moi j'ai deux mamans. Il y a une folle et puis une normale. » Le samedi matin, on se réveille au son de la guitare de mon père. Il est là, sur la terrasse, torse nu. Il joue les succès de ses idoles. C'est lui qui nous initie à la musique, qui nous apprend la guitare. La guitare, c'est ma langue paternelle. C'est un artiste contrarié, mon père. Il aurait voulu. Il aurait peut-être pu. En attendant, il nous invente des berceuses. Et il nous fait découvrir sa collection de vinyles. Stevie Wonder, Bob Dylan, David Bowie. Lui, il est arrivé adolescent d'Algérie. Et ma mère d'Italie. Et leur route s'est croisée à 17 ans dans une boîte de nuit, à Nice. Et la vie a fait le reste. Ils ont commencé à travailler tôt. Ils ont exercé ensemble le métier d'étalagiste. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Ils ne se sont pas posé la question. Ils ont toujours été d'humeur joviale, égale, jeune, beau, insouciant. Leur insouciance est la plus grande part de mon héritage. Pourtant, je suis une adolescente compliquée. Je m'emporte, je claque les portes, je teste sans cesse les limites de mes parents. Et je fume, et je vole tout ce que je peux voler dans les magasins. Des bonbons, du maquillage, des disques... Et avec ça, je tombe amoureuse tout le temps, à tort et à travers. Et je choisis toujours des garçons qui ne s'intéressent pas à moi, et qui me font du mal. Et donc, je noircis des dizaines de cahiers, où chaque poème est dédié à des initiales associées à un garçon, qui n'a pas la moindre idée du culte en rime que je lui voue. Je découvre que souffrir est une source d'inspiration. À part ça, je suis connu, ou plutôt inconnu au lycée, pour mon absentéisme. Je suis la première et la seule de ma fratrie à rater mon bac. Je l'aurai l'année d'après, en candidat libre. Il a souvent fallu que je m'y reprenne à deux fois, dans la vie. J'ai 20 ans, et je m'inscris à la fac de droit de Nice. Et là, je rencontre Johanna. On devient inséparable. Pour la première fois, j'ai l'impression que quelqu'un me comprend. Elle voit en moi des qualités que je ne soupçonnais pas. Le soir de mes 22 ans, nous décidons de sortir dans un bar mythique du Vieux-Nice, le Pompéi. C'est un endroit où on commande des shots de tequila au maître. Je n'aime pas l'alcool en soi, mais l'ivresse... Ce vertige, oui. Ce soir-là, il y a un groupe sur scène. Et comme c'est mon anniversaire, Johanna a une idée. Allez, Keren, va chanter avec eux. Allez, laisse-moi aller leur demander. Le chanteur doit douter de mes capacités. Je viens de renverser le plateau du serveur pour la troisième fois. Mais il accepte. Et j'enchaîne. Bob Marley, les Cranberries, Suzanne Vega... Et on m'offre des verres, et les gens m'écoutent. C'est le super pouvoir de la fille qui joue de la guitare. Et quand le bar ferme, on enchaîne. Dans un autre sanctuaire de la nuit niçoise, l'Oxford, bondé, irrespirable. Dans un coin du bar, il y a Arthur avec sa guitare. La clope au coin des lèvres, il fait chanter les gens. Et une fois de plus, Johanna parvient à m'imposer. Et j'enchaîne les titres. Et après, quand l'Oxford ferme, à 5h, eh bien on va chez Jeff, un musicien, et on continue de boire, de rire, de tituber. Et voilà, ma première nuit blanche s'achève et j'ai l'impression d'avoir vécu, d'être vivante. J'ai 22 ans et je viens de mettre un pied dans le monde de la nuit. Bien sûr, je tombe amoureuse de Jeff, le musicien de l'Oxford. Et nous sommes pris dans un tourbillon. La nuit devient une addiction. Si bien que je ne supporte plus les gens éclairés. Les gens avec leurs masques de jour, enfin. Ceux qui travaillent. Ceux qui ne comprennent pas nos gueules de bois. Ma mère, qui entre le matin dans ma chambre et qui ouvre les volets. Oh là là, ça sent la mort ici, hein. La mort de ma dignité, j'imagine. Un an plus tard, Johanna décide de poursuivre ses études à Paris. Au début, on s'appelle tout le temps. Et puis, je plaque tout, la fac, Nice, ma famille, pour m'installer chez Johanna, rue de Grenelle, dans le 6e arrondissement. Et ensuite, je me mets en coloc avec Martin, un musicien. Et on vit cette vie de bohème dont je rêvais. Je chante dans un pub où, par ailleurs, je sers des pannes de bière. À un moment, je suis même institutrice remplaçante. J'aime les élèves, hein. Je prépare mes cours consciencieusement, mais je n'ai aucune autorité, et en vérité, je n'ai aucune vocation. Je préfère encore travailler dans les bars, et traîner au lit, et flâner. Et le soir, je vais dans les boîtes du moment, le Baron, le Paris-Paris. On boit beaucoup, des litres et des litres, un cocktail de champagne aux fruits rouges, qui rend fou. Et le jour ? Le jour, je le passe à me morfondre. Sur des cahiers de Moleskine, j'épanche mes pleurs en rimes, en vers, en couplets, en refrains. Et ensuite j'attrape ma guitare et je m'étonne de voir naître une chanson. On en parle souvent avec Johanna. Finalement, la seule chose que je veuille, ou que je sache faire, ce sont des chansons. Tu devrais enregistrer tes chansons, Karen. Moi je connais 2-3 personnes, je leur ferai écouter. Et donc, j'enregistre en acoustique, avec ma guitare, 2 titres. Julien et la liste.
Aller à un concert, repas ma chambre en verre, boire de la vodka, aller chez Ikea, mettre un décolleté, louer un meublé et puis tout massacrer.
Et Johanna fait écouter mes chansons à Marianne, qui dirige la maison d'édition et de management dans laquelle elle travaille. Et puis dans nos virées nocturnes, elle a toujours des CD de moi dans son sac. Et un soir au Baron, et l'en glissant dans la poche d'un personnage central du monde de la nuit. Je vous promets de l'écouter. Ouais, ouais, promis. Et le lendemain matin, c'est-à-dire vers midi...
Allô ? C'est Fabrice. Bon, le directeur de mon label a aimé la chanson, là, la liste. Il veut te rencontrer.
Et là, je feins l'existence d'un agenda, et donc d'un emploi du temps, et nous décidons d'une date. Mais quelques jours plus tard, Johanna me dit que Marianne, sa boss, veut me signer elle aussi. Johanna a lancé 2 pistes et les 2 aboutissent. Et moi, je choisis de signer un contrat d'édition avec Marianne. Alors, je vous propose une avance de 20 000 euros, hein? Et puis je vous offre une guitare, une Martine, mon modèle Clapton. Quand je mets cette guitare dans les mains de mon père, eh ben... Et c'est pas foutu de ta gueule, cette Marianne, hein? Ah non? Et après, je reçois une autre avance du label. 70 000 euros. Plus 80 000 euros pour réaliser mon album. Mon album. Parce que ça y est, j'ai un métier. J'ai un métier rien qu'à moi. Mais je n'ai composé que 3 chansons. Ces gens sont complètement fous.
Paraître
Et maintenant, on veut me faire jouer en première partie. Mais il me faut un nom de scène. Je m'appelle Keren. Il y a déjà Kerenan. Et donc je choisis Rose. Rapport au film The Rose sur Janis Joplin. Je suis devenue chanteuse. Mon premier album sort en septembre 2006. Et quelques jours plus tard, il déboule au sommet des charts. Et on me voit à la télé. Et on m'entend à la radio. Et je commence à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Je pars en tournée. Je chante à la Cigale, ma première grande scène.
Se font toujours la belle. Tu lâches tes grands fonds jusqu'après la terre.
Je vends 20 000 disques par semaine. Je suis à la première place du top album. Et je me laisse briser par ce succès qui m'emporte avec lui. À cette époque-là, il y a toujours quelque chose à fêter, il y a toujours des verres à lever. Et dans les soirées parisiennes, il y a de la cocaïne. Et il m'arrive d'en taper de temps en temps. Ça me permet de dessouler rapidement et de continuer à faire la fête le plus tard possible. Je devine toujours celui qui a de la coque. Et les rails occasionnels deviennent des automatismes. C'est cher, peu importe, je ne compte pas, l'argent me brûle les doigts. Je ne supporte plus l'image de jeune fille sage et douce que le public a de moi. Consciemment ou pas, je décide de casser cette image. Pendant les concerts, il m'arrive de demander au public « Vous pouvez me dire où se trouve le bar le plus sympa du coin ?» Et là, c'est l'heure de mon deuxième show. Tournée générale, aller-retour aux toilettes, chute du haut du comptoir. Je ne sais pas quitter la fête. Je bois aussi sur scène, maintenant. De la vodka tonique. Elle enrobe ma peur. Je vis mes chansons désinhibées de mes complexes. Et je prends aussi de la drogue avant de monter. J'aime la cocaïne. Elle me rend puissante. Un trait pour me couper la faim, et un autre pour dessouler. Ou pour avoir envie. De tout, hein. De n'importe quoi, ça marche toujours. Même pour passer l'aspirateur, ça marche. C'est magique. C'est un super pouvoir. Je suis au-dessus de la masse, j'ai la sensation de contrôler ma vie. Me voilà au festival mythique des Francofolies de La Rochelle. J'attends ça depuis longtemps, et je suis obligé de me plier au rituel de la promo. Mais entre deux interviews, je réclame une pause. Je suis fatigué, je manque de sommeil, je sais pourquoi, hein. Et là, mon cerveau se met en pilotage automatique. Il me faut de la cocaïne. Et en trouver, c'est toujours simple, hein. 20 minutes plus tard, on vient me la livrer dans ma loge. Je déchire le sachet avec mes dents. Je verse la poudre sur le dos de mon téléphone. Je roule un billet de 5 euros. Et j'inspire tout en une fois. Oh, je me sens mieux. Et ce soir, ma soirée finira à la même heure que celle à laquelle je me suis levé. Mon album, mon premier album, s'est écoulé à 650 000 exemplaires. Et je vois déjà les lettres de mon nom en rouge sur la devanture de l'Olympia. Mais quand je commence à écrire mon second album, là je m'aperçois que l'état de ma voix est inquiétant. Je l'ai tellement maltraité à coups de clopes, d'alcool, de nuits blanches, de cortisone. À présent, je suis aphone. Un jour sur deux. Alors je vais voir un ORL. Il fait passer une petite caméra par ma narine. Ouais. Bon, cette substance-là. Vous savez, c'est très nocif pour la sphère ORL, hein. Et pour la voix. Mais pas que. Pour l'ouïe, le goût, la respiration, l'odorat, l'équilibre. Et donc vous voyez là, vous voyez vos deux cordes vocales sur l'image? Vous savez ce qu'on appelle un polype. Faut opérer ça. Et je vous préviens tout de suite, après pendant 2 mois, vous pourrez pas vous servir de votre voix. Hein. En 2009, je passe mes journées seul, chez moi. Mon mec est parti, je suis en panne d'inspiration. Et à force de crier et de pleurer, mon polype réapparaît. Vous savez, mademoiselle, le sanglot, sangloter, c'est ce qu'il y a de plus violent pour la voix. Le succès est un rouleau compresseur qui détruit tout. Il faut que je reconstruise mes fondations. Il faut que je me retrouve au milieu des décombres. Ma vie n'est devenue que trash et paillettes. Désormais, j'achète la cocaïne par 5 grammes. Et les nuits de fête sont suivies de crises de boulimie. Et du coup, je prends du poids. Ma vie est une gueule de bois généralisée. Je sais, hein, où j'ai merdé. Mais j'y retourne avec aplomb. Et je sombre. Et plus je sombre, plus je vais chercher la solution dans la fête. Tant bien que mal, j'enregistre mon deuxième album. Il n'aura pas le succès que je n'espérais même pas d'ailleurs.
Quitte-moi pour des échos, des candidats sont juste éclos, pour un quiproquo ou des cracks.
Un soir, avant de monter sur scène à Bordeaux, je lance à mes musiciens.
Si on rate ce concert, je me fous en l'air.
Ils doivent sûrement y croire un peu. Un autre soir, ivre, je n'ai pas envie de dormir seul. Alors j'envoie un SMS à mon éclairagiste, Bruno. Tu viens dormir avec moi? Et il quitte sa vie pour moi. Et j'attends un enfant de lui. Ma grossesse est en répit pour mon corps. Solal, né le 8 juin 2011. À partir de là, je passe certaines journées en mer au foyer. Et d'autres en mer dans ma chambre de bonne, pour écrire et composer mon troisième album. Et dans les deux cas, je me sens coupable, soit de ne pas travailler, soit de ne pas m'occuper de mon fils. De toute façon, j'arrive pas à écrire une ligne. Rien de spécial. Je suis juste à court d'idées géniales, d'issues de secours. Mes démons me collent aux tempes. Alors je me sers un gin tonic aux alentours de 19h, et puis 2, et puis 3. Quand je repars en tournée, il y a moins de monde dans les salles. Mais il y a encore des gens, et ça me suffit. Et j'ai recommencé la cocaïne, bien sûr. Je suis descendu à 47 kilos. Je me trouve belle. Mon troisième album a été un échec. Le quatrième le sera aussi. Et après Bruno me largue, garde alternée pour Solal. Et à partir de là, la dégringolade. Après l'été, j'essaye d'arrêter de boire. Ça ne dure pas plus de 40 jours. Et les reprises sont effroyables. Je vais de plus en plus mal. La dépression. Un matin, j'ai passé une nuit blanche à me demander si je ferais pas mieux de mettre fin à mes jours. Je vais voir ma psy à l'hôpital Fernand Vidal. Il faut m'hospitaliser. Ou plus vite. J'ai peur de pas résister à l'envie d'en finir. Et quelques heures plus tard, je me retrouve dans le service de psychiatrie de l'hôpital Henri Hay. Un endroit sordide. Je peux pas rester là. Alors je demande qu'on me transfère dans une clinique, peu importe le prix. Et on me trouve une place à la clinique Montsouris, à Paris. Une chambre simple. C'est déjà une chance.
Qu'on aille chambre simple vue sur Noël. Et l'espace en étreinte. Le manque d'air.
J'en sors au bout de 10 jours. Et lentement, la vie se remet à battre dans mon pouls. Mais un soir, je vais dans un bar retrouver des amis.
Je vais prendre un rosé, s'il vous plaît.
Et à minuit, ivre, je cherche déjà le numéro du dealer. J'ai replongé. J'ai rencontré un garçon, Raphaël. Grand, blond, assez féminin, pas du tout mon genre. Ce garçon va me sauver, mais pas tout de suite. Parce que moi, pour l'instant, il faut que j'aille au bout. Je dois me détruire totalement. Ne pas laisser une seule miette de moi vivante. Ma maison de disques me rend mon contrat. Et maintenant j'en suis arrivé à me demander si Solal ne serait pas mieux sans moi. Je n'arrive plus à m'occuper de lui. Je suis en dépression lourde. Et donc, je retourne en clinique, à Crohn. Et là, on me parle de bipolarité. Et puis plus du tout. Mais on me donne des médicaments, des régulateurs de l'humeur. Et quand je sors de cette clinique, sans trop savoir pourquoi, je demande à Raphaël, ce garçon qui n'est pas du tout mon type, de venir me chercher. Les jours qui suivent, je m'enfonce encore dans la dépression. Je vois des thérapeutes.
Comment allez-vous aujourd'hui ?
Pas mieux qu'hier,
voire pire.
J'ai envie de crever chaque minute.
Et pendant ce temps, je reçois des messages de Raphaël. Je ne réponds pas. Et puis, sans que je m'en rende compte, les médicaments, les régulateurs d'humeur, commencent à faire leur effet. Je pleure, moi. Je retrouve un peu de joie. Et puis le printemps fait son œuvre. J'arrive à m'extasier devant des cerisiers en fleurs dans un jardin. J'arrive à voir le beau. Et là, mon cœur se remet en route. Et je reprends contact avec Raphaël. Et on se surprend à s'aimer encore. Et je parviens à ne plus boire pendant toute une semaine. Mais je replonge encore, bien sûr. Un soir, Raphaël me ramasse ivre morte sur le trottoir. Et le lendemain,
Rose, moi je te le dis, je peux plus continuer comme ça. Je vais tout arrêter, Raphaël. Je te le jure, plus rien. Ni alcool, ni drogue, je te le jure.
Il ne m'a pas cru, je le sais. Mais moi je savais qu'il fallait que je change. Je bois depuis presque 20 ans, et tous les jours depuis 10 ans. Je me dis que je vais en baver, mais non, je ne ressens pas le manque. Et maintenant, je pars souvent la première d'une soirée, alors qu'avant je couchais tout le monde. Et je consomme du coca zéro, je deviens même accro, forcément. Je ne crie pas victoire, mais j'avance. Je découvre les réveils sans maux de crâne, les journées sans fatigue, je parle moins, j'écoute plus, je ne retire plus 150 euros tous les deux jours. Je m'endors tôt, sans somnifère. Je me souviens de mes rêves. Et je ne sors plus en pyjama pour aller chez l'épicier du coin acheter une bouteille de vin. J'ai envie de faire des choses. Je suis mère et je veux l'être. J'ai arrêté de me détruire. J'ai décidé de me construire.
Toi l'étincelle, toi l'éphémère, toi l'insoumise, toi la trop fière. T'as vu de trop près les hivers. Fais de trop loin tes prières. Toi la fuite, toi la petite.
J'ai tiré cette histoire du livre de Rose aux éditions Ipanema, Kérosène.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.